ta bienveillance, ô Éternel. C'est quoi la suite? Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Et je crois que sa bienveillance, vraiment, elle est extraordinaire. Je vous invite à continuer notre culte par... Attends, je vais voir si ça marche déjà, ça. On verra tout à l'heure. Imaginez un château complètement en ruine par l'effet du temps. Autrefois, ce château était un beau château impénétrable. Mais aujourd'hui, ses tours sont branlantes, ses remparts sont effondrés et ses murs épais sont bien fissurés. Et voilà qu'un maître d'œuvre, bâtisseur, un architecte hors pair qui arrive et conçoit un plan grandiose pour redonner vie à ce château, pour le rendre plus majestueux et plus solide qu'auparavant. Et en plus, ce maître d'œuvre hors pair dispose aussi bien de tous les matériaux pour la construction nécessaire, tous les matériaux nécessaires, que de l'expertise indispensable pour mener cette restauration titanesque. Et c'est ce que Dieu est pour nous. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Après avoir annoncé le jugement sur son peuple dans le livre de Sophonie, Dieu nous révèle dans ce livre-là la restauration de son peuple. Dieu, le grand architecte de l'univers, souhaite reconstruire nos vies, les rendre plus belles et plus solides. Alors, on va voir si ça marche. Ah, c'est par là. Ah, je vais faire mon test. C'est bon. Eh bien, vous avez trouvé. Peut-être vous vous souvenez, nous avons débuté il y a l'année scolaire dernière, une série de 3 messages sur Sophonie. Et le titre de cette série, c'est « Cherche humblement le Seigneur dans les jours sombres ». Aujourd'hui, nous allons explorer le 3e et dernier volet de cette série en abordant la restauration du peuple de Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti le poids des épreuves? Comme un château en ruine par l'effet du temps, nous sommes tous marqués, plus ou moins, par les tempêtes de la vie. Mais Dieu, le grand architecte, est là pour nous redresser et pour nous rendre encore plus forts. C'est ce que ce dernier volet de la série de Sophonie nous propose de découvrir ce matin. Après avoir décrit le jugement de Dieu dans Sophonie, nous parle du plan magnifique de restauration de son peuple. Dieu veut nous transformer. Il veut nous renouveler. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Sophonie. Nous lirons du... Sophonie chapitre 3, nous lirons du verset 9 au verset 13, et je vous invite à le suivre dans votre version aussi, et d'écouter ce merveilleux message d'espérance. Mais avant de lire ce texte, je vous invite encore à prier. Dieu notre Père, nous venons devant toi ce matin avec nos cœurs ouverts et désireux de te connaître davantage. Oui, Père, aide-nous à nous défaire de nos préjugés, de nos peurs, de ce qui nous bloque aussi pour accueillir ta parole et la laisser vraiment nous pénétrer très profondément. Que ton Saint-Esprit, Père, nous illumine et nous guide tout au long de cette méditation sur ces versets de Sophonie. Oui, Père, accorde-nous une écoute attentive et un cœur réceptif à tes promesses de restauration. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. La restauration du peuple de Dieu, dont il est question ici, peut se voir comme un aperçu de la restauration que Dieu promet à tout un chacun, à tout son peuple. C'est de l'espoir, c'est l'espoir pour toutes les nations. Quelle bonne nouvelle pour nous, n'est-ce pas? Et cette bonne nouvelle, elle peut se résumer en cette phrase, Dieu transformera les peuples en les unissant dans l'adoration. C'est ce que nous renvoie Sophonie, les versets 9 à 10 du chapitre 3. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit ici, je vous invite à revenir en arrière en lisant le verset 8, un verset en arrière où Dieu dit ceci par la bouche de Sophonie. Eh bien, voici ce que le Seigneur affirme. Attendez-vous. Attendez-vous à mon intervention. Attendez-le le jour où je viendrai vous accuser. J'ai décidé de rassembler les nations et les royaumes pour les soumettre au feu de ma colère. Toute la terre sera consumée par mon ardent courroux. Quelle est la décision de Dieu dans ce verset 8? La décision de Dieu, c'est de rassembler toutes les nations. Pourquoi faire? Pour déverser sur elles sa juste colère pour l'avoir méprisée, lui, le Dieu créateur. Et pour quelle finalité? Dans le but de purifier sa création. Nous avons là une image parlant du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu dans le sens ici de condamnation de tous ceux qui ont rejeté le salut. Et dans cette image, il est question du feu de la colère de Dieu que nous méritons du fait de nos péchés et de notre orgueil. Ce qui est extraordinaire dans ce verset 8, c'est qu'il nous offre un rayon d'espoir au cœur même du jugement de Dieu. En plongeant dans le texte original hébreu, nous découvrons que le mot « attendez-vous » ici est en réalité un impératif fort. C'est comme un ordre qui est donné. Dieu ne nous dit pas simplement d'attendre passivement, mais de nous accrocher fortement et fermement à la foi, même dans les moments les plus sombres. C'est ce que Dieu nous dit ici en disant, c'est comme s'il nous disait, ne baissez pas les bras, car je suis avec vous et je prépare quelque chose de grand pour vous. Cette promesse se concrétise un peu plus loin dans le verset 9 que nous allons lire et qui dit ceci, « Alors, je transformerai les peuples, je purifierai leurs lèvres, ils me prieront, moi le Seigneur, et me rendront un culte d'un même élan. » Vous pouvez remarquer, comme moi ici, que dans sa déclaration de restauration, Dieu ne nous donne pas les raisons de son changement d'avis, car c'est inscrit dans son plan de départ. Mais il nous dit immédiatement ce qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer son peuple. Nous voyons là la compassion de Dieu pour l'homme. C'est dans l'ADN de Dieu. Dieu qui initialement rassemble son peuple dans l'intention de déverser sur lui sa juste colère, finalement, il transforme cela. Il restaure. Il purifie les lèvres de son peuple, il purifie les lèvres de son peuple. Et cela, dans quel but? Nous trouvons la réponse un peu plus loin. Dans ce verset-là, un peu plus loin du verset 9, dans le but de qu'il le prie, lui le Seigneur, et qu'il lui rende un culte d'un même élan. La version Darby, qui est une autre traduction de la Bible, nous renvoie la raison de la purification des lèvres du peuple de Dieu en disant, c'est pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et qu'ils le servent d'un seul cœur. Que peut vouloir dire invoquer le nom du Seigneur? Invoquer le nom du Seigneur, c'est reconnaître Dieu comme son Seigneur, le Seigneur de sa vie. C'est se reconnaître comme une créature perdue. C'est reconnaître le besoin d'être sauvé. La question que ça me renvoie, invoques-tu souvent et vraiment le nom du Seigneur? Ou le fais-tu que lorsque les choses ne vont pas bien, et puis quand ça va bien, ben je vais faire autre chose? Quant à servir Dieu d'un même cœur, cela implique l'unité entre les peuples différents de par leur culture, leur langue, leur mode de vie socio-économique, et cela dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. L'autre question que cela me renvoie, sers-tu vraiment le Seigneur avec d'autres croyants d'un seul cœur? Le peuple d'Israël ici, le peuple d'Israël invoque le nom du Seigneur et veut le servir ici d'un même cœur. Dans cette version-là, pour le peuple d'Israël, invoquer le nom du Seigneur et le servir d'un même cœur peut vouloir dire aussi, ou peut-être faire penser à la tour de Babel, dans Genèse 11. Ce dont il est question ici, au verset 9, dans Sophonie, c'est exactement le contraire de la tour de Babel, où les gens cherchaient à s'exalter eux-mêmes. Le Seigneur promet ici l'unité des peuples pour l'adorer et le servir d'un même cœur. Pour nous, nous pouvons aussi voir dans cette promesse ce qui s'est passé à Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et ils louaient et s'adressaient au Seigneur à Jérusalem dans des langues différentes et ils se comprenaient. Et de façon surnaturelle, Dieu a changé leurs paroles pour qu'ils adorent tous d'un même cœur le Seigneur. Et ce jour-là, dans Actes 2, Pierre a cité une prophétie de Joël qui disait « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La promesse de Dieu dans Sophonie s'est accomplie pour nous tous, dans la venue du Messie. En Christ, Dieu purifie les lèvres de tous les peuples pour qu'ils le prient, lui le Seigneur, et qui lui rendent un culte d'un même cœur. Cela s'est accompli avec la mort et la résurrection du Christ. L'Évangile ne se limite plus à Jérusalem, mais aux extrémités de la terre. Dieu met lentement en place son royaume. L'Église naissante a été rassemblée comme un nouveau peuple de Dieu, diversifié et unifié. Voyez-vous, Sophonie 3:9 nous invite à nous rassembler dans notre diversité de peuples pour adorer Dieu d'un même cœur. Oui, Dieu transformera les peuples en les unissant dans l'adoration. On peut se demander pourquoi et comment se fera cette transformation le jour du Seigneur. La suite du texte nous le dit. Et c'est ce que j'ai essayé de résumer avec cette phrase. Dieu transformera les peuples en supprimant l'orgueil. Et c'est ce qui nous est renvoyé dans les versets 11 à 13, que je vous invite à suivre dans vos versions aussi. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, des péchés commis contre moi. J'enleverai en effet du milieu de toi tous ceux qui débordent d'orgueil, et tu cesseras de faire le fier sur la montagne qui m'est consacrée. De toi, je garderai les gens humbles et pauvres qui me demanderont de les protéger. Les survivants du peuple d'Israël ne commettront plus d'injustice et ne diront plus de mensonges. Ils n'utiliseront plus leur langue pour tromper. Ils pourront manger et dormir sans que personne leur cause d'effroi. Dieu déclare ici, par Sophonie, deux choses. La première, il retirera tout ce qui déborde d'orgueil. La deuxième, Il gardera les humbles et les pauvres qui lui demanderont protection. Arrêtons-nous un instant sur la première promesse de Dieu ici, de retirer tout ce qui déborde d'orgueil. Qui sont ceux qui débordent d'orgueil? Vous me direz, ce sont les orgueilleux. Et c'est vrai, c'est les orgueilleux, des personnes aveuglées par leur ego, qui rejettent l'autorité de Dieu et méprisent ses semblables. Ce qui est ironique dans ce verset-là, c'est que c'est de voir des orgueilleux fleurir sur la montagne sainte. Ces orgueilleux ici, ce sont des personnes convaincues d'être les seuls héritiers de Dieu en raison de leur lignée, de leur descendance d'Abraham. Avec leur ego surdimensionné, ils ont perdu de vue l'exemple d'Abraham, à savoir la foi inébranlable et l'obéissance sans faille. Dieu, dans sa sainteté, ne peut laisser un tel orgueil fleurir sur sa montagne et le laisser impuni. Il promet donc de séparer le bon grain de l'ivraie. Et je crois que ce message est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui. Nous avons tous en nous des tendances à l'orgueil. L'orgueil, c'est, je dirais, une tumeur qui ronge notre cœur. La rébellion, c'est comme une tempête qui secoue notre vie. Et pour la combattre, il est d'une part important d'admettre que l'orgueil et la rébellion nous éloignent de Dieu et des autres. Et aussi, d'autre part, de savoir le reconnaître. L'orgueil peut se manifester de différentes manières. Par la critique, par le besoin d'avoir raison, par la difficulté à demander pardon. Alice nous en parlait tout à l'heure dans la première partie, ça fait partie aussi de l'orgueil, la difficulté à demander pardon. La rébellion, elle se traduit par une résistance à l'autorité de Dieu et par un désir de faire les choses à notre manière, de les faire comme on veut. La Bible nous donne plusieurs clés pour combattre l'orgueil et la rébellion. Je vous en livre rapidement quelques-unes. La prière, c'est notre ligne de vie avec Dieu. Et en nous tournant vers Dieu et en reconnaissant notre dépendance à lui, nous sollicitons son aide. La parole de Dieu, elle est notre boussole et elle nous guide. C'est comme ça qu'elle est définie dans la Bible. Méditer régulièrement la parole, tout seul, mais aussi en groupe, comme dans les groupes de quartier, ou même dans des groupes où vous pouvez partager la parole et vous laisser interpeller ensemble par la parole, sont des éléments qui peuvent nous faire grandir spirituellement. La communauté, les autres chrétiens peuvent nous encourager à lutter contre la rébellion et à grandir dans la foi. L'humilité, aussi nous renvoie, nous dit la Bible, c'est l'antidote à l'orgueil. En reconnaissant nos limites et en cherchant à servir d'autres, nous nous rapprochons de Dieu. Vous savez, que ce soit individuellement ou en tant qu'Église, il y a un danger réel que de penser que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Penser cela, c'est comme si nous disons à Dieu, « Je n'ai pas besoin de toi ». Le texte de ce matin nous met en garde contre cette attitude. Matthieu 22 nous donne une bonne illustration des conséquences d'une telle attitude avec l'homme qui n'a pas mis l'habit de noces à la fête. Qu'est-il arrivé à cet homme ? il a été exclu de la fête. C'est un avertissement fort. Ne soyons donc pas comme cet invité mal habillé. Cherchons plutôt à nous revêtir de l'humilité. Voyons maintenant la deuxième chose évoquée tout à l'heure que Dieu déclare faire pour la restauration de son peuple. Nous le voyons au verset 12. Pour restaurer son peuple, Dieu promet qu'il gardera les humbles et pauvres qui lui demanderont protection. Cette déclaration de Dieu par la bouche de Sophonie nous montre également une facette touchante du caractère de Dieu. Dieu porte une attention toute particulière aux humbles et aux pauvres. Dieu s'engage à protéger les humbles et les pauvres qui reconnaissent leur dépendance envers lui. C'est comme un père qui aime et veille sur ses enfants. En choisissant de se tourner vers Dieu, vous vous tournez vers celui qui est la source de la force, celui qui est un refuge inébranlable. Imaginez un berger qui protège son troupeau des loups et des animaux sauvages. C'est ainsi que Dieu prend soin des humbles et des pauvres. Il est leur berger. Il est leur guide. Il est leur protecteur. Et dans ce monde souvent injuste et cruel, ils trouveront en lui un havre de paix. Nous avons tous besoin d'être protégés et de se sentir en sécurité. Sophonie, dans ce verset 12, nous rappelle que Dieu est toujours là. Il est toujours présent, surtout dans les moments difficiles. En nous tournant vers lui, avec humilité, nous pouvons expérimenter sa protection et sa paix. Le peuple de Dieu restauré sera un peuple nouveau, caractérisé par la pureté, la paix, la sécurité. Et le texte nous dit qu'ils mangeront, ils seront vraiment en paix. Et cette image magnifique d'un avenir où le péché n'aura plus de place, et où nous pouvons trouver vraiment une harmonie en Dieu, nous a été rappelée dimanche dernier par Laurent dans Ésaïe 11, au verset 6 à 10. Et ce texte nous disait que dans ce monde, dans le monde qui va venir, où le loup côtoiera l'agneau, un monde qui sera marqué par la justice. Je vous invite à relire ce magnifique texte que nous avons lu dimanche dernier. Alors, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri, le veau et le jeune lion mangeront ensemble, un garçon les conduira. La vache et l'ours mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même abri, le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Et il n'y aura plus ni mal, ni violence sur toute la montagne sainte du Seigneur. En effet, la connaissance du Seigneur remplira le pays comme l'eau remplit les mers. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de la terre. Ils viendront lui demander conseil et la gloire de Dieu brillera là où il habitera. Les prophéties que ce soit de Sophonie, du 7e siècle avant Jésus-Christ, ou d'Ésaïe, un peu plus loin, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, toutes ces prophéties qui ont été faites dans des contextes différents, nous montrent un tableau sublime de l'avenir. Un avenir où Dieu règnera en maître et où son peuple vivra dans la paix et la justice. Quelques mots pour conclure. Dieu nous promet, par la bouche de Sophonie, non seulement une restauration individuelle, mais aussi une restauration collective. Il rassemblera son peuple, le purifiera et le préparera pour un avenir glorieux. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que chacun de nous porte en lui des traces de blessures et de péchés, et que Dieu, dans sa grâce infinie, offre à chacun de nous une nouvelle vie. Il veut effacer nos larmes et transformer nos souillures en quelque chose de beau. Et cette invitation est une invitation personnelle lancée à chacun de nous encore ce matin. Mais c'est aussi une invitation collective à nous rassembler dans notre diversité de peuples pour adorer Dieu d'un seul cœur. Acceptons cette invitation avec joie et gratitude. Et ensemble, témoignons autour de nous de l'amour de Dieu. Je vous invite à prier. Père céleste, nous te remercions pour ta parole vivante, prononcée il y a de ça plus de 700 ans avant Jésus-Christ, et qui arrive encore à nous aujourd'hui, et qui nous parle. Merci Père pour ta grâce infinie, et pour ton désir de nous restaurer entièrement. Oui Père, aide-nous à accepter ton invitation avec joie, et à vivre conformément à ta volonté. Oui, Père, que ton Esprit Saint transforme nos cœurs et nous donne la force de surmonter les obstacles qui nous empêchent de vivre dans ta sainteté et te louer d'un seul cœur. Oui, Père, nous reconnaissons qu'il est difficile de rester constamment sur le chemin de ta sainteté. Et nous te demandons pardon, Seigneur Père. Et nous comptons, Père, sur ta grâce pour nous garder près de toi et de nous garder sur le chemin de ta sainteté, Seigneur. Oui, Père, enlève en nous l'orgueil et aide-nous à être des témoins de ta lumière dans ce monde. Que ta gloire soit montrée au travers de nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Contrairement à ce que, d'habitude, on ne va pas prendre un chant à la fin de cette prédication. Je vous invite simplement à prendre un temps de silence.